La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'est l'une des plus grandes mathématiciennes françaises. Ses travaux sont liés entre autres aux ondes gravitationnelles. Elle a également été la première femme à être élue à l'Académie des sciences. Elle a connu Albert Einstein à Princeton, aux États-Unis, quelques années avant sa mort. Yvonne Choquet-Bruat publie ses mémoires chez Odile Jacob. Elle est notre invitée cet après-midi avec à ses côtés le physicien Thibaut Damour. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Mahmoud Mebarek.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Une mathématicienne dans cet étrange univers, ce sont vos mémoires que vous publiez chez Odile Jacob, Yvonne Choquet-Bruat. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Bonjour à vous également, Thibaut Damour.
Bonjour.
Yvonne Choquet-Bruat, pourquoi si peu de femmes mathématiciennes? Qu'est-ce qui décourage les femmes à entrer dans ce domaine des sciences, selon vous?
Dans les sciences en général, il y avait très peu de femmes dans ma jeunesse. Et encore maintenant, il y en a un peu plus en biologie qu'en mathématiques, mais pas tellement. Mais en fait, vous savez, il y a eu un antiféminisme très prononcé. Qui, par exemple, même Marie Curie n'a pas pu être nommée professeure. Oui. Elle a travaillé librement. Ma mère, qui était professeure agrégée de philosophie, n'a eu le droit de vote qu'en 1945.
Oui.
Donc, il y avait certainement, et même mon père, qui était un homme excellent, que j'aimais beaucoup, a dit que je ne devais pas faire médecine parce que c'était un métier trop prenant et qu'une femme devait s'occuper de son ménage et de ses enfants.
Ouais. Et vous Après avez tenu ça, bon, hein, malgré tout.
Oui, 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 bien sûr.
Et vous avez fait une carrière absolument magnifique. Thibaut Damour, vous connaissez bien Yvonne Choquet-Bruat. C'est un destin tout à fait unique dans la science française.
Oui, pensez, toutes les semaines, je déjeune avec Yvonne et pensez qu'elle a parlé avec Einstein, qu'elle a été la première femme à rentrer à l'académie, qu'elle a écrit 8 livres, 300 articles, qu'elle a eu... De Marie, combien d'enfants? 4, 5 enfants?
3
enfants. Elle a fait tout ça, elle a voyagé dans le monde entier, et encore aujourd'hui, à 93 ans.
Bientôt,
93 ans. Elle suit la dernière pointe de la science.
Absolument. Yvonne Choquet-Bruat, vous restez avec nous, vous êtes notre invitée avec Thibaut Damour et les courriels des auditeurs.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et aujourd'hui, à la une de la science, direction la jungle amazonienne et les jardins du diable.
Le premier est un arbre, la deuxième est la fourmi amie de l'arbre. L'arbre vit mal sans sa fourmi. La fourmi, quant à elle, est incapable de vivre sans l'arbre.
Et c'est l'histoire que nous allons vous raconter en plein cœur de l'Équateur. Une drôle de coopération entre des fourmis et une espèce d'arbre qui les accueille, ce qui favorise la croissance des jeunes pousses ainsi que leur implantation. Et pour en parler, nous sommes en direct de l'Équateur avec vous, Olivier Dangle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRD et en studio avec moi, Hervé Kempf pour Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Étude publiée, Hervé, il y a quelques jours à peine.
Tout à fait, dans The American Naturalist, une revue scientifique de biologie et d'écologie. Alors, pour bien comprendre son importance, faut se rappeler que le mécanisme dominant dans l'évolution, nous dit-on, et c'est tout à fait attesté, avéré depuis Darwin, c'est la compétition entre les espèces et entre les individus au sein des espèces. Mais ça n'est quand même pas un mécanisme exclusif, et il y a aussi d'autres mécanismes aussi importants dans la nature, c'est les mécanismes d'association. Alors souvent c'est au sein d'une espèce, on parle alors de coopération, et puis ça peut être entre deux espèces dans lesquelles les organismes impliqués tirent tous les deux profit de leur relation, on parle alors de mutualisme. Et un cas très intéressant de ce mutualisme associe dans la forêt tropicale d'Amazonie, en Équateur, une espèce de fourmi, alors j'espère bien prononcer, monsieur Dangle nous le dira, la Myrmecolachista schumanni, et puis une espèce d'arbuste, Duroya hirsuta. Et c'est donc cette étude très importante à laquelle a participé Olivier Dangle.
Olivier Dangle, est-ce que d'abord les noms ont bien été prononcés par Hervé ?
C'est très bien, j'ai trouvé l'exercice très bien réussi.
Bravo. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord l'endroit où cette étude a été menée en Équateur?
Oui, alors effectivement, ça vaut le coup de se plonger un petit peu dans cette jungle amazonienne. Je me trouve actuellement à Quito, il est 7h15 du matin. La forêt amazonienne se trouve à 200 km d'ici à vol d'oiseau, mais alors que moi je me trouve à 2800 mètres d'altitude, on va descendre cette fois-ci à environ 200 mètres d'altitude, et on va trouver effectivement un parc national qu'on appelle Yasuni, qui s'étend sur environ 10 000 km², c'est une réserve de la biosphère, et donc on a toutes les caractéristiques d'une forêt humide, très pluvieuse, et en même temps avec une température qui permet le développement d'un grand nombre d'organismes.
Alors là, donc, c'est une belle histoire de coopération, c'est ça, entre une fourmi et une espèce d'arbre.
Voilà, c'est ce qu'on appelle du mutualisme, effectivement, où les deux espèces trouvent un avantage à collaborer entre elles. On a d'un côté l'arbre qui donne à la fourmi un habitat, et aussi certains petits insectes qu'on appelle des cochenilles, qui vivent dans cet arbre et qui donnent du miel aux fourmis. Et en échange, on a la fourmi qui va tuer en fait les compétiteurs de cet arbre en injectant de l'acide formique, et qui va permettre à l'arbre de pousser plus vite.
Et alors, est-ce qu'on peut mesurer, évaluer le profit, le bénéfice que tire chacune de ces espèces ?
Voilà, donc c'était tout le challenge un petit peu de l'étude. On a commencé par essayer de comprendre quel était l'avantage de cette relation pour l'arbre. Et pour ça, en fait, on a eu la chance de travailler dans une forêt qui fait l'objet d'un suivi depuis une vingtaine d'années. Donc, il faut comprendre que sur cette parcelle, il y a environ 300 000 plants d'arbres qui sont suivis, qui sont numérotés. Il y a une petite fiche. Et grâce à l'incroyable base de données qu'ont réuni nos collègues équatoriens de l'Université catholique, on a pu effectivement mesurer la croissance de ces arbres quand un arbre était dans un jardin du diable ou quand il était à l'extérieur. Et on a donc trouvé qu'à l'intérieur, il poussait deux fois plus vite qu'à l'extérieur. Par contre, pour la fourmi, on a encore des études à faire pour bien comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'elle va pouvoir se développer mieux.
Olivier Dangle, on parle donc de mutualisme dans ce cas précis, parce qu'on évoque aussi la symbiose de temps en temps entre deux espèces différentes. Qu'est-ce qui les distingue au fond ?
Alors en fait, le mutualisme, c'est un petit peu comme un mariage entre deux espèces, et ce mariage a des degrés différents en fait. Certains sont complètement obligatoires, c'est ce qu'on appelle donc la symbiose, c'est quand on a deux organismes qui sont en mutualisme obligatoire, et d'un autre côté, on a des mutualismes qui ne sont pas obligatoires. C'est le cas, par exemple, de cet arbre et de cette fourmi. On peut trouver l'arbre sans la fourmi, et la fourmi peut vivre sur d'autres espèces d'arbres, mais quand ils se retrouvent ensemble, ils forment un mutualisme qui permet aux deux espèces d'avoir des avantages.
Alors, on a documenté de fréquentes associations d'espèces de fourmis et d'espèces d'arbres. Qu'est-ce que celle-ci, que vous avez étudiée, a de particulier ?
Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on appelle les myrmécophytes, hein. Ce sont les plantes donc sur lesquelles on trouve les fourmis. Il y a plus de 100 genres dans le monde, et elles ont en fait des manières différentes de se voir dans la nature. Et en fait, celle-ci est un petit peu particulière, parce qu'effectivement, la fourmi ne va pas seulement défendre l'arbre contre les herbivores, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de partenaires, mais elle va aussi créer ses jardins. Donc elle va en fait nettoyer un petit peu aux alentours de l'arbre pour créer dans la forêt amazonienne, alors qu'on trouve souvent, on a du mal à trouver d'une fois à l'autre une même espèce d'arbre. Il faut voir que sur 25 hectares, on va trouver jusqu'à 900 espèces d'arbres différentes. Donc en fait, quand on se balade dans la forêt, on trouve toujours des espèces d'arbres différentes. Et là, dans ce cas-là, on peut arriver à un moment donné dans la forêt sur des sortes de grandes clairières ouvertes, où il y a en fait une monoculture d'arbres, où on trouve que cette même espèce de Doria. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement exceptionnel dans les relations entre plantes et fourmis.
Et donc ça, on le doit à cette fourmi, Olivier Dangle, qui du coup utilise son acide formique, c'est ça, pour faire le ménage et ne protéger que son arbre chéri.
Voilà, donc l'homme n'a rien inventé quand il utilise ses pesticides pour enlever les mauvaises herbes dans ses cultures. La fourmi fait la même chose. Ça a été démontré effectivement il y a quelques années que les fourmis injectent de l'acide formique. Alors quand on se balade dans la forêt et quand on regarde les jeunes plants d'autres espèces d'arbres qui ne sont pas des Doria, on voit effectivement des nécroses à la surface des feuilles. Et c'est en fait l'effet de l'acide formique qui est injecté par la fourmi dans les feuilles, ce qui est aussi tout à fait remarquable.
Étonnant, oui.
Est-ce que ce mécanisme que vous décrivez, est-ce qu'il est exceptionnel, comme vous l'avez dit, ou est-ce que c'est un mécanisme majeur dans la biodiversité de la forêt tropicale ?
Alors effectivement, vous l'avez souligné justement, depuis Darwin, on a centré un petit peu les études en écologie évolutive sur la compétition comme moteur de la biodiversité. Et depuis, on va dire, ces 20 dernières années, on trouve de plus en plus d'études qui montrent que les interactions positives, notamment le mutualisme, sont également très importantes pour le maintien de la biodiversité. Et notamment dans ces forêts tropicales où je vous ai indiqué qu'il y a vraiment une grande diversité d'arbres sur une surface restreinte, les interactions positives comme celle-ci permettent aussi de créer des patchs dans la forêt qui sont un peu différents, qui ont des fonctionnements un petit peu différents avec de la dominance de certains arbres, et ainsi d'avoir une dynamique extrêmement intéressante et très productive en termes de biodiversité.
Olivier Dangle, est-ce que l'arbre bénéficie justement de cette action de la fourmi tout au long de sa vie, ou plutôt justement au début de sa croissance ?
Alors c'est une bonne question, effectivement, quand on parle de mutualisme, en fait, je vous ai dit qu'il y avait des degrés divers de mutualisme d'une espèce à l'autre, mais il y a aussi des degrés divers des effets de ce mutualisme en fonction de ce qu'on appelle l'ontogénie, c'est-à-dire le cycle de vie des partenaires qui sont impliqués. Souvent, on a décrit ce mutualisme comme étant bénéfique plutôt à la fin de la vie de l'arbre, mais dans notre cas, on a effectivement trouvé que ce sont plutôt les jeunes plants qui sont favorisés par l'action de la fourmi. On pense, parce que principalement, là, il faut voir que quand on rentre dans une forêt tropicale, c'est très sombre. On a une canopée qui est très importante, il y a peu de lumière qui arrive au niveau du sol. Et les fourmis, en nettoyant un petit peu les plus gros arbres qu'il pourrait y avoir autour des plants de Duroya, permet à ces jeunes plants de croître meilleur en ayant accès à la lumière.
Hervé Kempf, on termine avec un mot d'actualité environnementale qui concerne justement l'Équateur où se trouve en ce moment Olivier Dangle.
Oui, puisque votre terrain d'étude, Olivier Dangle, c'était dans le parc Yasuni, et c'est une réserve qui est célèbre parce qu'il était question de ne pas y exploiter le pétrole afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais les pays du Nord n'ont pas joué le jeu et le gouvernement de l'Équateur a décidé de commencer l'exploitation de ce pétrole. Quel effet cela peut avoir sur votre travail et quel effet cela peut avoir sur la biodiversité extraordinaire de ce parc Yasuni?
Oui, alors effectivement, je le répétais tout à l'heure, c'est important d'avoir des observatoires du milieu naturel, comme c'est le cas avec cette station scientifique que l'on a à Yasuni. Et ces observatoires nous permettent de comprendre les changements qu'il peut y avoir dans l'environnement, parce que la plupart du temps, le problème qu'on a en milieu tropical, c'est qu'on n'a justement pas de données et on ne peut pas décrire ces changements. Donc, les principaux impacts qu'ont l'activité pétrolière dans la forêt, c'est le fait de créer des routes pour accéder au puits. Ces routes, ensuite, sont colonisées par les êtres humains qui vont un petit peu défricher, commencer à habiter, chasser. Et donc, on a déjà décrit dans le parc Yasuni, puisqu'il y a beaucoup de compagnies pétrolières qui ont leurs exploitations, des effets néfastes sur la biodiversité, sur les grands mammifères, et aussi peut-être sur les interactions qu'il peut y avoir entre, et souvent méconnues, entre des fourmis, d'autres insectes et des plantes.
Merci en tout cas Olivier Dangle pour vos précisions sur cette publication donc, qui vient de paraître. Vous êtes chercheur à l'IRD, donc en direct de Quito, en Équateur. Allez, dans un instant, le parcours étonnant et singulier d'Yvonne Choquet-Brua, grande mathématicienne française, notre invitée dans la tête au carré avec le physicien Thibaut Damour.
De la justice sur la route.
Raphaël et Jean-Louis Aubert sur la route.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Yvonne Choquet-Brua, une femme de science au destin singulier dans le domaine des mathématiques. Vous êtes notre invitée cet après-midi dans la Tête au Carré à l'occasion de la publication de vos mémoires. Une mathématicienne dans cet étrange univers. C'est le titre donc de votre livre qui paraît chez Odile Jacob. Et puis à vos côtés, on a invité Thibaud Damour, que vous connaissez bien, physicien théoricien, professeur à l'Institut des Hautes Études Scientifiques et puis auteur également d'une bande dessinée. Hein, Thibaud Damour, on en a beaucoup parlé dans l'émission Le Mystère du Monde Quantique chez Dargaud avec Mathieu Burnia. Les messages des auditeurs arrivent sur France Inter. Sur le mot-clé l'attaque. Il y a déjà des questions au sujet de votre rencontre avec Albert Einstein, Yvonne Choquet-Brua. Je sais qu'on vous en parle toujours, évidemment, hein, mais on ne va pas parler que de ça. On va évidemment évoquer cet épisode de votre vie. Ça s'est passé à Princeton, aux États-Unis, tout à l'heure. J'aimerais d'abord savoir, vous êtes une mathématicienne reconnue dans le monde entier. Et dans ce livre, vous racontez à la fois votre travail scientifique, mais aussi le récit de vos voyages, les savants que vous avez rencontrés, et puis des événements plus privés de votre vie. C'est vrai que les scientifiques habituellement n'aiment pas beaucoup mélanger leur travail de recherche avec des détails plus intimes de leur vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, à 93 ans, d'écrire vos mémoires ?
Mon fils en particulier.
Il vous a poussé à le faire ?
Oui. Il avait peur que je ne sois plus capable de faire des mathématiques, ce qui est exact d'ailleurs, parce que d'une part ça devient de plus en plus compliqué, et d'autre part il y a de plus en plus de gens qui en font. Et puis l'exemple de vieillards qui ont travaillé trop tard m'a plutôt découragée. Donc il a eu peur que je m'ennuie, et puis d'un autre côté il était curieux, donc lui aussi, de ma vie. Ouais. Donc il m'a vivement encouragée à écrire mes mémoires, et finalement j'y ai pris goût.
C'est vrai. Et vous avez donc accepté de livrer des choses plus intimes de votre vie ?
Oui, les choses vraiment très très intimes, je n'en parle pas.
Bien sûr.
Mais enfin oui, bien sûr, de la vie privée. Oui.
Ouais. Thibaud Damour, un récit comme celui d'Yvonne Choquet-Brua, au fond ça permet aussi d'humaniser la science.
Oui, pas... toutes ces rencontres, aussi on voit les difficultés d'une femme quand Yvonne choisit elle-même son sujet de thèse, et un de ses directeurs de thèse, ouais, André Duchamp-Vest, je lui dis, mais c'est trop difficile pour une débutante. On voit l'énergie qu'elle doit développer dans ce monde toute sa vie pour travailler sur les sujets qui l'intéressent, mais elle n'a peur de rien.
Ouais. Yvonne Choquet-Brua, vous avez dû affronter sans cesse, au fond, ce machisme scientifique,
non? Non, pas moi. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais. J'ai eu d'abord un patron, Ligner Wyss, qui était un féministe et qui m'a tout de suite... Et puis d'ailleurs, il était encourageant pour les débutants. Toujours qu'ils soient des femmes. Il a eu beaucoup de femmes, d'ailleurs, comme élèves. Mm-hmm. D'ailleurs, la plaisanterie, c'était qu'il a eu beaucoup de femmes et un homme qui s'appelait Femme. Mais enfin, il a eu aussi des élèves masculins.
Ouais.
Il a eu énormément d'élèves. Mais ensuite, en fait, ça n'a pas été vraiment mon patron scientifique, ça a été Jean Leray,
oui,
un mathématicien exceptionnel, qui m'a tout de suite manifesté de la sympathie, parce que Leray était un homme, était un patriote, ça semble un mot ridicule à l'heure actuelle, mais mon père est mort en déportation, parce qu'il avait défendu beaucoup les élèves de l'école normale, oui, auxquels il tenait d'ailleurs. Donc Leray m'a tout de suite manifesté de la sympathie, s'est intéressé à moi. Et il a donc lu le petit livre de Ligner Wyss, « Problèmes globaux en mécanique relativiste », et il m'a dit « Mais le sujet intéressant, c'est la résolution du problème de Cauchy sans hypothèse d'analyticité. Pour les non-mathématiciens, ça veut dire qu'on peut admettre des discontinuités dans les solutions, ce qui, oui, n'est pas le cas pour, bon, les fonctions analytiques. »
Oui. Bon, on va essayer de vous suivre. Alors voilà. Justement, c'est une question que je voulais vous poser. Lorsque vous avez dû expliquer à vos petits-enfants sur quoi vous avez travaillé en mathématiques, qu'est-ce que vous leur avez dit exactement ? Imaginez que nous soyons vos petits-enfants, justement, et qu'il faut que vous nous disiez exactement quel est votre thème de recherche.
Eh bien, mon thème de recherche, ça a été d'utiliser finalement les mathématiques, éventuellement d'en perfectionner certaines parties, mais d'utiliser les mathématiques classiques, la géométrie en particulier, pour analyser les théories physiques, vérifier, démontrer des nouvelles propriétés, et tout cela partant utilisant uniquement de la rigueur.
D'accord, donc ça je comprends, ça c'est le plus simple effectivement. Donc vous avez vraiment établi un lien essentiel entre les mathématiques et la physique. C'était ça aussi votre travail.
Oui, ce qui m'intéressait fondamentalement, c'était de comprendre l'univers. Ça a l'air très prétentieux. Mais j'avais dit à mon père, qui était donc un opticien, lui, directeur adjoint de l'École normale supérieure.
Georges Bruat,
qui a écrit
grand scientifique aussi.
Un grand physicien, qui a écrit des livres essentiels
dans son domaine.
Qui ont été encore utilisés récemment, réédités récemment. Et donc, je ne dirais pas qu'il avait tellement éveillé ma curiosité parce que il n'était pas féministe, comme je l'ai dit plus tôt.
Oui, oui.
Donc, il attendait davantage de son fils, qui est d'ailleurs devenu un grand mathématicien, François Bruat.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'ayez jamais lâché et que vous soyez engagé dans cette voie, donc si peu fréquentée par les femmes, et encore pire, vraiment, à vos débuts, et que vous aviez votre père qui ne croyait pas vraiment, justement, à cette carrière scientifique, qui, même à la biologie, d'ailleurs, qui pouvait paraître plus simple en apparence.
Oui, mais c'est-à-dire, j'avais envie de faire médecine en sortant. Je n'étais pas décidé. Je voulais faire de la recherche. En fait, j'avais beaucoup de curiosité. Je crois que la curiosité est une grande qualité. Beaucoup de curiosité. Et donc la médecine, puis en plus c'était la guerre à ce moment-là, c'était encore moins encouragé pour les femmes.
Ouais.
Donc on m'a conseillé de faire préparer l'École normale supérieure des jeunes filles. Ce n'était pas mixte à l'époque. Et puis finalement, je réussissais bien. J'étais, voilà, j'ai la tête.
Et vous avez été rapidement l'une des meilleures. Thibaut Damour, alors, pour nous présenter un peu aussi le parcours scientifique de mathématicienne d'Yvonne Choquet-Bruat, qu'est-ce qu'il faut retenir justement de ce parcours?
Alors, plusieurs choses. Les grandes contributions d'Yvonne concernent des aspects mathématiques de la théorie d'Einstein, de la relativité générale. Elle a été la première à prouver l'existence de solutions génériques au sens mathématique des équations d'Einstein contenant des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des phénomènes de propagation. Avant son travail, on pouvait douter de l'existence à cause des phénomènes non linéaires, et même Einstein lui-même, à un moment, qui avait introduit les ondes gravitationnelles dans un cadre simple, linéaire, avait dit « mais peut-être les phénomènes non linéaires vont empêcher ces ondes gravitationnelles de correspondre à des solutions régulières ». Dans un autre travail, justement, Yvonne a montré que si on pense à des ondes très fortes, par exemple si on est au bord d'une plage, on peut voir une onde qui arrive et qui se brise. Bon, il y a des phénomènes du même type quand vous avez des fluides. Eh bien, la question a été posée, est-ce que l'espace-temps, qui est un espèce de fluide compliqué, pourrait avoir des ondes qui se brisent, qui donnent des chocs? Yvonne a montré qu'il y avait une structure mathématique très particulière des équations d'Einstein, qui n'avait pas de raidissement des ondes gravitationnelles, même quand elles étaient très non linéaires. Elle a aussi trouvé des phénomènes nouveaux. Quand une onde gravitationnelle passe au voisinage d'un trou noir qui est chargé électriquement, à la sortie, il s'est transformé en partie en onde électromagnétique. C'est quelque chose que l'on peut voir avec un poste radio. Et puis, elle a étudié la structure globale de l'espace-temps. Elle a été la première à introduire une approche géométrique globale pour prouver l'unicité globale d'espace-temps.
Yvonne Choquet-Bruat, écoutons justement l'annonce de la détection directe des ondes gravitationnelles.
Mesdames et messieurs, nous avons détecté les ondes gravitationnelles. Ça y est, c'est fait. Je suis si heureux de pouvoir vous dire ça. Ces ondes gravitationnelles ont été émises par deux trous noirs entrant en collision pour n'en former qu'un seul il y a 1,3 milliard d'années. Elles ont été détectées par LIGO, l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, qui est à l'heure actuelle l'instrument de mesure le plus précis jamais construit.
Ça fait la une des gens du monde entier, Yvonne Choquet-Bruat. On vous doit, d'une certaine manière, cette découverte des ondes gravitationnelles. Vous avez été très heureux, je vous vois encore avec un énorme sourire sur le visage.
Oui, j'ai été très heureux. Pas que moi-même, je n'en avais jamais douté de leur existence, des ondes gravitationnelles. Mais je ne pensais pas qu'on les observerait dans les années prochaines.
Ouais.
Parce que elles sont quand même extrêmement faibles. Il a fallu un énorme travail d'expérimentateurs, de construction. J'avais bien connu le premier qui a cru et qui a essayé de les observer, un certain professeur Joseph Weber. Ouais. Un homme très sympathique d'ailleurs. Et il avait construit un appareil, mais on a montré par la suite que ça n'était pas possible qu'il ait observé vraiment les ondes gravitationnelles.
Ouais. En tout cas, il en avait l'intuition extraordinaire.
Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, il a voulu les observer. Et ça ouais. a été un. Disons, ça a incité peut-être à encourager ouais. d'autres méthodes, d'autres constructions d'appareils pour ouais. observer les ondes gravitationnelles. Et donc ça, j'ai été contente que ça existe.
Et
que
ça l'année du centenaire de la relativité générale
oui, oui,
d'Albert Einstein.
Oui,
oui. C'est formidable, non, quand même?
Oui, mais enfin, moi, je vous dis, j'étais tellement persuadée c'est qu'elles vrai. Existaient, ces ondes gravitationnelles. Ouais. C'était tellement évident sur les équations que, ma foi, c'est bon, j'en ai heureuse que ça se fasse.
Ouais. Thibaut Damour, vous aussi, vous avez contribué justement à la découverte de ces ondes gravitationnelles.
Il les a étudiées en détail et a montré que ce qu'on observait, c'était bien des ondes gravitationnelles.
Et c'est
parce
essentiel.
Que ça passe par tellement d'étapes et d'observations que, puis après, c'est des calculs extrêmement compliqués pour vérifier
c'est ça.
Que le signal qu'on observe, c'est bien celui ouais. qui était prédit par les équations d'Einstein.
Ouais. Donc
ça, c'est un travail considérable.
Absolument
c'est
considérable.
C'est un travail considérable.
Et essentiel aussi.
Oui, 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 ça, je comprends que maintenant, Thibault soit... Il a toujours mérité d'être un homme célèbre. Maintenant, il est vraiment un homme célèbre.
C'est pour ça qu'il peut se permettre de sortir des bandes dessinées, maintenant.
Voilà.
Pour étudier la mécanique quantique. Alors là, pour le coup, on est dans l'autre domaine de...
Ah ben, ça, c'est un grand problème de la gravitation. C'est ouais. la quantification de la gravitation.
Mais Yvonne mérite aussi de devenir célèbre pour les ondes gravitationnelles. Parce qu'un autre de ces travaux dont je n'ai pas encore parlé a joué un rôle pour la détection des ondes gravitationnelles. C'est Yvonne a montré comment décomposer les équations d'Einstein dans un formalisme qui distingue le temps par rapport aux variables dans l'espace. Et ces formulations-là, où on sépare espace-temps en espace-temps, des descendants de ces méthodes-là ont été utilisés en relativité numérique. C'est-à-dire les calculs sur ordinateur qui, en complément des méthodes analytiques, permettent de calculer les ondes gravitationnelles, ont hérité de beaucoup de travaux d'Yvonne.
Allez, on va se retrouver dans un instant. On va quand même parler de cette rencontre avec le grand Albert Einstein, Yvonne Choquet-Brua. Vous en parlez longuement dans cet ouvrage, une mathématicienne dans cet étrange univers, chez Odile Jacob.
faut faire avec. Depuis hier pourtant, plus rien. On aurait vu prendre le train. Et moi je n'ai plus qu'une clope. Et les nerfs, je vous dis pas les nerfs dans quel état.
De Liminanaz et Bertrand Belin, c'était dimanche.
La tête au carré sur France Inter.
Et mes invités, la mathématicienne Yvonne Choquet-Brua, ses mémoires chez Odile Jacob, et le physicien Thibaut Damour. Yvonne Choquet-Brua, beaucoup de questions pour vous sur votre rencontre avec Albert Einstein. Nous sommes à Princeton, début des années 50, et pour illustrer justement cet épisode de votre vie, voici un extrait du documentaire Albert Einstein, portrait d'un rebelle, diffusé en 2015 sur Arte.
À l'Institute for Advanced Study, l'Institut des études supérieures de Princeton, véritable Eldorado des plus grands penseurs du monde entier, Albert Einstein occupe le poste qu'il gardera jusqu'à la fin de sa carrière. À l'Institut, Albert Einstein s'immerge dans l'univers des formules mathématiques, la science restant pour lui le domaine le plus stimulant. Il garde ses distances avec la jeune génération de talents scientifiques à laquelle appartient le physicien Freeman Dyson. Pour ses collègues et les étudiants de l'Institut, Albert Einstein reste un marginal, un solitaire.
Il y avait deux endroits qui étaient nos lieux d'échange, la cantine et la salle de séminaire. Et Einstein restait à l'écart des deux. Il ne venait pas plus déjeuner qu'il ne se rendait au séminaire. Il était tout à la dévotion de son problème qu'il appelait la théorie des champs unifiés, et qui était l'unification entre le champ gravitationnel et l'électromagnétisme, alors que la physique prenait à ce moment-là une toute autre voie.
Yvonne Choquet-Brua, des années heureuses, hein, ce début des années 50 pour vous à Princeton. Oui. Vous prenez le bateau, vous arrivez à New York après la guerre, après la déportation et la disparition de votre père dans les camps. Vous arrivez donc dans cette ambiance très revigorante américaine.
C'était un autre monde,
Et cette université de Princeton dans laquelle se trouve Albert Einstein. Beaucoup de questions pour vous demander d'abord dans quelles conditions.
C'était l'université, c'était l'Institute for Advanced Study.
Dans quelles conditions vous rencontrez Einstein?
Eh bien, grâce à Leray, une fois de plus. En fait, c'est Leray qui nous avait invités. Ouais. Il avait droit à un assistant, deux assistants. Donc, j'étais l'assistante en principe de Leray, ce qui veut dire je ne me donnais aucune obligation. Mais donc, j'assistais à son cours, qui était très intéressant, sur les systèmes hyperboliques généraux. Et je sortais de l'amphithéâtre en même temps que lui. Et nous, dans le couloir, nous avons rencontré Einstein. Leray connaissait déjà Einstein, c'était deux grands hommes. Et Leray m'a présenté à Einstein, disant que j'avais fait une thèse sur la relativité générale et que j'étais la fille de Georges Breuer. Et les deux choses étaient une recommandation très positive pour Einstein.
Il y avait à la fois le fait que votre père soit un grand scientifique,
et le
mais
fait
également
qu'il soit mort,
sa déportation.
Bien sûr, Einstein était anti-nazi évidemment. Donc ce fait a aussi influencé certainement la bienveillance qu'il m'a manifestée au moins au début. Mais ensuite, il a continué d'être bienveillant, mais j'ose dire qu'il avait peut-être d'autres motivations.
Ouais. Mais alors, vous êtes jeune post-doctorant donc, à cette époque, mais comment on se retrouve face à Einstein à l'époque,
qui
est quand même l'homme qu'on connaît aujourd'hui, c'est la toute fin de sa vie, il est mort en 55.
On a fait beaucoup de bruit autour d'Einstein, on l'a photographié en train de tirer la langue, ce que je ne l'ai jamais vu faire. Et puis, C'était, bien sûr, c'était un homme célèbre, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il était plutôt à l'écart du mouvement, de l'épanouissement des théories quantiques.
Marginal et solitaire, comme le disait ce documentaire, oui, vous êtes d'accord avec ça?
Absolument, il n'allait pas, mais il n'y avait pas de cantine d'ailleurs à l'Institut de Forêt-Vincennes, c'est pas vrai, il n'y avait pas de cantine. Mais enfin, il y avait le thé traditionnel qui se tenait dans ce qu'on appelait la common room, et Einstein ne venait jamais au thé.
Ouais.
Il y avait un séminaire de physique théorique, auquel moi j'allais d'ailleurs, parce que je m'intéressais à la physique théorique, qui était dirigé par un autre grand homme, qui n'a pas la réputation d'Einstein, mais qui était quand même aussi un grand homme, Oppenheimer.
Avec le projet Manhattan, c'est le nom du projet Manhattan. Et...
Oui, mais enfin c'était aussi un grand scientifique.
Ouais. Alors Einstein, racontez-nous quand même, vous êtes dans son bureau régulièrement, parce qu'il vous ouvre les portes de son bureau, il vous dit vous êtes la bienvenue quand vous voulez, et vous avez ces discussions mathématiques, et vous vous permettez même de trouver des erreurs dans ses textes.
Oui. C'est ce qui, en fait, ça a cru sa sympathie à mon égard. Quand je suis entrée dans son bureau, il m'a dit exposez-moi votre thèse, puisque j'avais fait une thèse sur la relativité générale. Donc, vous pouvez parler français, mon anglais était un peu défaillant. Vous pourrez parler français, je le comprends, mais je vous répondrai en anglais parce que j'ai pas perdu la pratique du français. Je lui ai donc exposé ma thèse au tableau où je démontrais donc l'existence de propagation de la gravitation avec la vitesse de la lumière. Ce qu'il croyait d'avance, disons, mais qu'il n'était pas un mathématicien, c'était un physicien. Donc il n'avait pas démontré, il avait démontré dans certaines approximations. Donc il y croyait, mais le fait que je l'ai démontré, ça lui a plu. Et donc il m'a félicité, puis c'était un homme très bienveillant. C'était pas du tout ces savants désagréables. Non, c'était... Puis enfin, moi j'étais jeune, et puis lui, il avait déjà près de 75 ans, enfin... Donc, peut-être ça a influé aussi peut-être son amabilité à mon égard.
Donc vous avez souligné certaines de ses imprécisions, c'est ça, et vous en a été reconnaissant au fond.
Une autre fois, pas cette fois-là, mais ensuite il m'a dit vous pouvez entrer dans mon bureau, venir me voir quand vous voulez, mais il n'y a qu'à frapper à la porte et je vous ouvrirai toujours.
Ouais.
Donc j'y suis retournée pas tellement souvent parce que j'y suis retournée et une fois il m'a encouragé à rechercher, disons c'est un peu technique, mais enfin. Qu'il n'y avait pas, que ces équations n'avaient pas de solution périodique.
C'est-à-dire
de solutions qui ressemblent. Hein. Périodique, c'est une chose périodique, ça se reproduit pareil à lui-même, à un intervalle de temps fixé.
Et donc vous n'aviez pas 30 ans hein, lorsque vous avez ces échanges avec lui?
Oui, non, j'avais pas 30 ans, j'avais 28 ans.
Ouais. Vous regrettez de ne pas l'avoir rencontré ou de ne pas avoir ouvert plus souvent la porte de son bureau?
C'est-à-dire, à ce moment-là, il travaillait, lui, sur la théorie unitaire, donc, dont vous parliez tout à l'heure. Et d'une part, moi, j'y croyais pas. En fait, il croyait non seulement qu'il allait... Einstein a toujours cherché, sans vraiment croire qu'il allait le trouver, d'ailleurs, contrairement à ce que disent certaines personnes. Mais il cherchait une représentation mathématique de tout.
C'est-à-dire quelque chose qui aurait unifié à la fois la relativité générale, la mécanique quantique.
La mécanique quantique, il n'y croyait pas. Enfin, il croyait que c'était un aspect, mais que non, il croyait à la causalité. Comme il disait, Dieu ne joue pas au dé.
Ouais.
Donc, non, il ne croyait pas. Mais enfin, il ne disait pas que les résultats trouvés étaient faux, mais il pensait qu'il y avait une réalité cachée. Et il espérait trouver, lui, une formule qui inclurait d'une part la gravitation et l'électromagnétisme, et aussi les particules, et tout. Il cherchait une théorie du tout.
Ouais. Thibaud Damour, alors évidemment, la théorie de la relativité générale, Albert Einstein, c'est aussi votre vie de physicien. Hein?
Oui, et en très grande partie, Einstein avait la vision... À part vouloir unifier tous les champs électromagnétiques, gravitationnels, il avait effectivement la vision de vouloir unifier la mécanique quantique avec la relativité générale. Et pendant longtemps, à l'époque, des gens comme Oppenheimer, le directeur de l'Institute for Advanced Study, c'est un de nos amis communs, Stanley Deser, qui m'a dit ça, quand un jeune postdoc arrivait à l'Institut, Oppenheimer les rassemblait dans une salle et disait, et surtout, n'allez pas parler au vieux con au fond du couloir, là, parce que ce qu'il fait n'a aucun intérêt. Si, Oppenheimer a dit ça.
J'ai été voir Oppenheimer aussi, qui s'intéressait à la relativité, comme vous le savez d'ailleurs, et il ne m'a pas du tout dit qu'Einstein était un vieux con.
Old fool.
Ça n'empêche pas. Peut-être, vous savez, des choses qu'on dit incidemment, moi je le fais souvent remarquer, un tel croit ceci. Je ne sais pas parce qu'il a dit dans une phrase quelque chose que c'est sa croyance absolue.
Mais certains travaux d'Einstein un peu avant, à la fin des années 30, où pendant longtemps on disait vraiment là, il avait perdu les pédales, ça n'a aucun intérêt. Il essayait de trouver des liens entre mécanique quantique et relativité générale. Eh bien, aujourd'hui, dans les dernières années, elles ont donné lieu à des travaux importants. C'est-à-dire que la vision d'Einstein, qui a peut-être un lien caché entre gravitation, relativité générale et mécanique quantique, aujourd'hui fait partie de la physique moderne. Oui. Donc, des interrogations d'Einstein sont aujourd'hui d'actualité.
Et c'est ce travail d'unification qui vous intéresse aussi, Thibaut Damour, sur lequel vous travaillez depuis les années 90, hein, maintenant.
Alors, il y a aussi, et aussi plus généralement, effectivement, cette vision d'unification de toutes les forces, elle est devenue la vision standard de la physique, aujourd'hui à travers la théorie des cordes, et la théorie d'Einstein joue un rôle central.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion. Yvonne Chokibrua et Thibaut Damour, à tout de suite sur France Inter. Calypso Rose, c'était Calypso Blues.
La tête au carré sur France Inter.
Et mes invités, la mathématicienne Yvonne Choquet-Brua, ses mémoires chez Odile Jacob, et le physicien Thibaut Damour. Les questions des auditeurs, Yvonne Choquet-Brua. André vous pose cette question. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est, à votre avis, le problème mathématique ou le problème de physique théorique non encore résolu et dont la solution révolutionnera la vie des hommes? Il y a encore des grands problèmes
qui
sont...
Il y a beaucoup de choses qui ont révolutionné la vie des hommes ces derniers temps, pas toujours pour le mieux d'ailleurs. Eh bien, la quantification de la gravitation, la découverte, l'observation du graviton.
Mmh. Ça reste un grand problème à résoudre?
Oui.
Mmh. Et en quoi ce sera révolutionnaire?
Difficile à dire. On ne peut pas prévoir. Mmh. Quand Edison a trouvé la lampe électrique, on a dit « Oh, c'est un gadget ».
Ouais.
Donc, on ne peut pas prévoir. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui révolutionnera la vie des hommes.
Thibaut Damour.
S'il en reste.
Je pose la même question, au fond. Un grand problème de mathématiques
De mathématiques.
Ou de physique.
Oui, parce qu'un grand problème de physique qui pourrait révolutionner la vie des hommes, c'est l'ordinateur quantique, pouvoir... ça aurait un impact sociétal très important.
On est en bon chemin
important.
Quand même, non? Pour l'ordinateur quantique.
Le phénomène dit décohérence fait qu'il y a un obstacle absolument majeur. Je veux dire, peut-être qu'on n'arrivera jamais au-delà.
Moi, je ne comprends pas comment on peut... Alors qu'on me dit qu'on ne peut pas transmettre de l'information par un phénomène quantique, comment est-ce qu'on peut faire un ordinateur quantique? Enfin, je suis très ignorante.
Mais ça excite beaucoup de monde quand même aujourd'hui. Hein.
Oui, je sais, j'ai visité le laboratoire de M. Zellinger, d'abord Aspect, que je connais bien, bien sûr, c'est un ami. Et puis Zellinger, l'Autrichien, là, m'a fait visiter son laboratoire.
Ouais.
Mais enfin, je ne comprends pas, disons.
Ludovic demande, par quel exercice de pensée avez-vous eu la ferme intuition de l'existence des ondes gravitationnelles? Je veux dire, vous êtes mathématicienne, comment des équations vous ont-elles mené à une certitude sur le réel, Yvonne Choquet-Brua?
Ah, ça c'est une grave question. Mais enfin, disons que jusqu'à présent, les résultats mathématiques sont des résultats logiques et qu'à une certaine échelle au moins, les phénomènes que nous pouvons observer obéissent à la logique.
Ouais.
Donc les ondes gravitationnelles existent, sont prouvées par les équations qui par ailleurs ont eu diverses vérifications, l'avance du périhélie de Mercure, etc. Donc, puis enfin il y a des ondes électromagnétiques, il y a des ondes, tout a des ondes, enfin je veux dire n'importe quel phénomène, si vous lancez une pierre dans l'eau, ouais, se propage par onde. Donc la gravitation... telles que les équations sont désormais des équations qui dépendent du temps, je veux dire, j'allais dire hyperbolique, mais c'est un mot savant. Donc, eh bien, il y a des ondes.
Ouais. On a le sentiment que c'est ce qui vous a le plus plu, au fond, dans votre travail, c'est ce lien entre la théorie pure et puis ensuite le rapport au réel, oui, à la cosmologie.
C'est très agréable de faire des mathématiques, parce que c'est une certitude. On a des hypothèses. Je sais bien que les mathématiques, ça repose sur la théorie des ensembles, qui elle-même est très aléatoire, n'a pas de démonstration. Mais enfin, quand même, les mathématiques telles qu'on les construit l'esprit humain, on part d'hypothèses, on arrive à des conclusions.
Oui.
C'est une grande satisfaction, c'est une grande facilité, disons. C'est amusant, c'est une distraction de faire des mathématiques.
Oui.
Et que ça s'applique à un certain nombre de théorèmes physiques, eh bien, c'est enrichissant pour quelqu'un qui essaie de comprendre cet étrange univers où nous vivons,
oui,
qui est de plus en plus étrange.
J'espère que vos propos vont rassurer ceux qui sont un peu réfractaires, hein, justement, à la question mathématique.
Eh bien, je trouve qu'on les massacre désormais dans l'enseignement, les mathématiques. On ne peut pas entrer dans ce sujet.
Et c'est un regret pour vous, j'imagine.
Oui,
parce que vous envoyez vraiment un aspect extrêmement beau. Hein.
Oui, puis enfin, moi, je garde un excellent souvenir de mes cours de mathématiques. Et je comprends que mes petits-enfants ne s'intéressent pas aux mathématiques.
Mmh. Thibaut Damour, rapport au cosmos, justement, et au réel.
On voit chez Yvonne, ça vient aussi du fait que son père était un grand physicien qui a écrit plusieurs volumes sur tous les aspects de la physique. Donc la physique jouait un rôle important... chez elle, et toujours chez Yvonne, même si sa voix, ça a été les mathématiques, elle garde un œil, une motivation vers la physique, vers la cosmologie, vers les ondes gravitationnelles. c'est toujours très important pour elle.
Un homme aussi qui a été très important dans votre vie, une belle amitié, celle avec Georges Charpak, dont écoute la voix, justement, Yvonne Choquet-Bruyat, à l'annonce de son prix Nobel en 1992.
Évidemment, ça me rend joyeux, hein, ça me rend content. Ça récompense un travail qui a été fait il y a une vingtaine d'années au CERN. Et ça récompense aussi les gens qui m'ont permis de faire des études. Je suis arrivé en France en 1932, en Pologne, avec une famille qui a dû lutter pour survivre. Et au fond, j'ai été assez gâté parce que j'ai pu faire des études tout à fait convenables. Et je suis content d'avoir le prix Nobel, quoi.
C'est très sympathique.
En toute simplicité.
Il était très sympa, ouais. Georges.
Et vous lui rendez hommage à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans ce livre, Georges Charpak.
Oui, ben nous étions amis de jeunesse, oui. Ouais. Il était rentré par hasard, disons, à l'école des mines avant d'être déporté. Et en rentrant, il est rentré à l'école des mines parce qu'il n'avait pas le courage de repasser une grande école plus prestigieuse. Mais il avait une vocation de chercheur. Donc, il était lié avec un camarade de taupe, qui lui-même, dans ce temps-là, la taupe où il était mixte.
Qu'est-ce que vous appelez la taupe, hein?
Ah, ben, c'était on appelle aussi mathématiques spéciales. Mm-hmm. C'est là où on prépare les concours à l'école normale, à Polytechnique. Donc, il avait été dans. Il y a l'hypotaupe, qui est l'année d'avant. Normalement, il faut 2 ans pour préparer Polytechnique, disons. Mm-hmm. Donc, en hypotaupe, en fait, il avait été camarade et ami d'un quelqu'un qui ensuite est rentré à l'école normale supérieure, qui lui-même était ami d'une amie à moi, qui était à l'école normale féminine de la même promotion. Donc Charpak, une fois rentré dans son école des mines, il aimait beaucoup mieux nous fréquenter, nous. Et le fait que j'avais envie de faire de la recherche, et que lui aussi... Et ça nous a rapprochés aussi.
1979, vous devenez la première femme élue de l'Académie des sciences. 1979, c'est quand même assez hallucinant, non?
Ben disons que c'était mûr. Mais enfin, il y avait une autre femme qui était candidate en même temps que moi, qui est une naturaliste. Et en fait, le naturaliste, une des personnes qui m'ont reçue, qui était Pierre-Paul Grasset, un grand biologiste. Et après m'avoir bavardé avec moi, il a dit « Oui, je crois que vous êtes digne de rentrer à l'Académie. »
Marie Curie n'est pas rentrée à l'Académie des sciences.
Ben, elle n'a pas été élue du premier coup.
Irène Joliot-Curie non plus.
Ah ben oui, là c'est plus étonnant. Mais c'est... L'Académie était assez conservatrice à l'époque d'Irène Joliot-Curie.
Et donc il a fallu attendre 1979, hein, Thibaut Damour. Et aujourd'hui, il y a combien? 28 femmes à l'Académie des sciences, malgré tous les efforts, hein.
Oui,
faits,
et pas énormément en physique,
encore moins en physique théorique.
Oui, encore moins. C'est beaucoup en biologie.
Est-ce qu'il y en a en physique, des femmes en physique?
Oui,
mais elles sont très minoritaires.
Ouais. Dans ma section, donc, qui s'appelle maintenant mécanique et informatique, il y a moi. Je ne suis vraiment rien. Je ne suis pas vraiment une mécanicienne, pas vraiment une mathématicienne.
Mais vous y êtes, c'est le principal.
Et pas vraiment une physicienne. Mais je suis là, il y a 2 autres femmes.
Ouais. Merci beaucoup en tout cas Yvonne Choquet-Bruyat, une mathématicienne dans cet étrange univers, vos mémoires, votre parcours de scientifique aux éditions Odile Jacob. Et puis merci à vous également Thibaut Damour sur votre venue aujourd'hui. Et puis on renvoie à ce livre, Le mystère du monde quantique. Ce n'est pas un livre, c'est une bande dessinée chez Dargo qui remporte un énorme succès. Merci beaucoup à tous les deux. La tête au carré, c'est fini pour aujourd'hui. Demain dans l'émission, les femmes dans la préhistoire.